Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. C'est par ces mots que la Bible a introduit le célèbre sermon sur la montagne. Ce sermon est rapporté au chapitre 5, 6 et 7 de l'Évangile selon Matthieu. Ce morceau de littérature est en réalité un chef-d'œuvre du genre, tant par sa simplicité que par sa puissance de persuasion. Sans crainte de faire un jeu de mots pédant, on peut dire que l'enseignement de Jésus est sublimement simple et simplement sublime. Le Christ est venu parmi nous il y a environ 2000 ans, pour nous léguer le message de sa vie et de sa mort. Son ministère public fut relativement court. Il dura environ 3 ans. C'est pendant cette activité publique intense qu'il prononça des discours apparemment simples, mais qui contiennent un tel dynamisme divin que 2000 ans après, ils sont encore, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux, ils sont encore aussi vivants et efficaces, plus tranchants qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Pourtant, il a prêché une religion qui a pour centre de gravité celui qui donne leur pâture aux oiseaux et leur parure au lys des champs. Cette disproportion entre la cause et son effet démesuré est prodigieuse. Cette même constatation avait fait dire à Jean-Jacques Rousseau « Se peut-il qu'un livre à la fois si sublime et si simple soit l'ouvrage des hommes ? Il serait plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce livre, qu'il ne l'ait qu'un seul en ait fourni le sujet. » L'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus grand que le héros. Le début du Sermon sur la montagne nous plonge d'emblée dans le domaine du paradoxe. Heureux ceux qui souffrent, heureux les affligés, heureux ceux qui pleurent maintenant, heureux tout ce qui a déplaît, tout ce qui gémit, tout ce qui aspire au bien et à la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Jusqu'alors, la conscience juive avait appris à considérer comme puni de Dieu celui qui souffrait. L'histoire de Job dans l'Ancien Testament illustre parfaitement cette mentalité. À la nouvelle des maux qui se sont abattus sur Job et sur ses biens, 3 de ses amis viennent l'aider à faire son examen de conscience, pour découvrir ce qui aurait bien pu attirer sur lui la colère de Dieu. Jésus rétablit cette notion faussée par un certain légalisme hypertrophié. Il nous apprend à regarder cette vie comme une étape préparatoire, pendant laquelle il faut être prêt à supporter avec bonheur et même avec allégresse toutes les conséquences inhérentes à un attachement à sa personne. Si vous souffrez et supportez tout cela à cause de moi, réjouissez-vous. Et soyez dans l'allégresse. Comment est-il possible de souffrir et de se réjouir en même temps? Voilà un aspect apparemment paradoxal du christianisme qu'on ne peut pleinement comprendre que si on l'a vécu. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il continue de renverser le confort de ses auditeurs vautrés dans leur justice hypocrite et odieusement suffisante. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent », mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et il ajoute, avec une logique absolument désarmante, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Comme le dit l'écrivain Daniel Robs, on n'entend pas sans frémissement des phrases comme celle-là. Car c'est vraiment le fond du cœur humain qui est atteint, mis à nu, avec ses passions dévorantes de haine, d'orgueil et de convoitise, par ces mots d'une merveilleuse simplicité. Impitoyablement, toute notre personnalité se reflète, terriblement dénudée de tous ses artifices. On peut dire, avec raison, que l'on ne peut sonder la Bible sans être à son tour sondé par elle. Gardez-vous d'afficher votre justice devant les hommes pour être vu d'eux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'en rabâchant, ils se feront écouter. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Les sentences tombent pleines de vérité et de logique. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Aussi, ne sommes-nous pas étonnés de lire que la foule était frappée de sa doctrine car il enseignait avec autorité et non pas comme leurs scribes. Même ses compatriotes à Nazareth, qui l'ont reconnu lors d'une de ses visites, s'étonnent de le voir enseigner avec tant d'assurance. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Il précise sa mission en disant, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Il parle en effet avec une autorité qui tient soit de la mégalomanie, soit de la divinité. C'est pourquoi il est impossible d'avoir vis-à-vis du Christ une attitude compromise ou divisée. C'est la foi ou le refus. C'est soit l'obéissance, soit la rébellion. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Chers amis, il est aisé de constater que l'évangile du Christ n'a rien de vague ni rien d'incertain. Tout est clair, dynamique, catégorique. Tout nous enjoint à l'action et à l'adhésion au Christ, à sa doctrine et à son Église. Quelle sera notre attitude? Comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, nous ne pouvons nous trouver que dans l'une des deux catégories. Ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Ceux qui assemblent avec lui ou ceux qui dispersent. Cette répartition paraît un peu brutale, mais elle correspond à la réalité. Elle semble avoir omis l'indifférent qui n'est ni pour ni contre. Toutefois, dans le langage du Christ, l'indifférent est un révolté en puissance. Son sermon sur la montagne se termine d'ailleurs par un appel à l'action, où se reflète encore toute son autorité, toute sa conscience d'être le Messie, l'envoyé du Père. Quiconque entend ces paroles que je dis sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Elle est tombée et sa ruine a été grande. N'est-ce pas ici la lamentable expérience de l'homme moderne qui compte son argent, l'homme moderne qui rêve de conquérir le monde et l'espace et qui subit une vraie désintégration intérieure? Il faut crier partout cet avertissement de Jésus, plus que jamais actuel et plus que jamais vital. À quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Les hommes et les nations ont bâti sur le sable. Leurs entreprises et leurs espérances sont vouées à l'échec. L'homme doit apprendre à bâtir sa vie sur le roc de l'Évangile, c'est-à-dire en obéissant scrupuleusement et courageusement à la voix du Fils de Dieu. Mais pour entendre cette voix, il faut d'abord faire silence en notre cœur. Il faut que je laisse de côté ma façon de voir, mes idées, mes opinions, mon avis, en un mot, ma volonté, pour faire place à celle de Dieu. Il faut que j'accepte de me laisser bousculer dans ma façon de voir, car elle est bien différente de la sienne. Michel Coix écrit dans un style très personnel. Jésus-Christ ne parle pas le même langage que toi. C'est pour cela que tu as du mal à le comprendre. Tu parles efficacité, il dit par la croix. Tu parles influence dans le monde, il dit en étant le dernier. Tu parles de puissance, il dit en étant petit enfant. Tu parles de richesse, il dit en épousant la pauvreté. C'est dur de se comprendre quand on ne parle pas le même langage. Accepte d'être bousculé dans ta façon de voir. Ne te dérobe pas à l'Évangile. Si tu dis « un tel ferait bien de lire ce passage », tu n'as rien compris, car c'est à toi que s'adressait le Seigneur. Si tu ne dis pas « Seigneur, merci, Seigneur, pardon, Seigneur, me voici », c'est que la parole ne t'a pas atteint, car c'est toi qui étais visé. Parce que tu le lis régulièrement, tu épouses les idées de ton journal. Parce que tu regardes et admires cet homme, tu finis par réagir et penser comme lui. Parce que tu aimes cet ami, tu lui ressembles et tu vises à sa manière. Si tu fréquentes régulièrement l'Évangile, lentement tu acquiers le regard, les sentiments, les pensées, les jugements, la mentalité du Christ. Le familier de l'Évangile ressemble forcément à Jésus-Christ. Apprenons donc à côtoyer la parole de Dieu. Apprenons, en ouvrant notre Bible, à y voir un message personnel de Dieu pour moi. Si nous devons souvent soupirer dans notre marche trébuchante, « Seigneur, c'est difficile », c'est déjà là une prière. L'important est d'essayer encore, et d'essayer toujours, construisant l'édifice de notre vie sur le roc inébranlable de Jésus-Christ.